le chien est un outil mis à disposition au chef de colonne, au commandant des opérations. L'information, enfin l'utilisation du chien, on peut venir. Alors nous, il faut sur l'intervention, bien entendu, qu'on soit force de proposition. Si là, on est dans le cadre rêvé pour utiliser le chien, on va le suggérer. On peut être aussi sollicité par le chef de colonne en disant là, je voudrais utiliser le chien. Mais la décision d'envoyer ou non l'animal nous appartient. Si les conditions optimales pour envoyer le chien sont réunies, eh bien c'est parti. Si on considère qu'elles n'y sont pas parce que ça serait, je dirais, envoyer le chien au sacrifice et que ça n'ait aucune plus-value pour la résolution de la crise ou pour l'avancée de la situation, bien entendu, on n'en voit pas le...
Bienvenue dans cette mini-série exclusive du podcast Défense Zone consacrée au RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre d'un membre du groupe cynophile. Nous souhaitons une bonne écoute.
Donc nous sommes toujours à Bièvre, en compagnie du brigadier Seb. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien entendu, bonjour. Heureux de vous rencontrer. Moi, c'est donc Sébastien, j'ai 42 ans, j'ai une petite fille. Je suis brigadier au groupe cynophile du RAID depuis maintenant 4 ans. Concernant mon parcours police, je suis rentré dans la boîte par le biais des adjoints de sécurité. Très rapidement, j'ai obtenu mon concours de gardien de la paix, école de police. Ensuite, j'ai fait une grosse dizaine d'années en compagnie républicaine de sécurité. Ensuite, j'ai un petit peu posé les valises, je dirais, en intégrant une compagnie de sécurisation et d'intervention en région parisienne. J'ai embrayé avec un groupe de soutien opérationnel et prétendre aux tests du service que j'ai réussi et comme je vous l'évoquais, ça fait 4 ans maintenant que je suis au groupe Cynotechnique.
Et comment vous êtes arrivé à ce groupe Cynotechnique ?
Alors effectivement, j'ai un cursus police qui n'entend pas de lien avec la spécialité. Je suis un pur produit maître chien police RAID, puisque je n'ai pas exercé de chien de police dans une unité sino conventionnelle, comme on pourrait la trouver dans toutes les villes de France. Néanmoins, la matière sino m'intéresse depuis toujours. Depuis tout petit, à la maison, on a des chiens et des chiens de travail, de travail ou d'utilité en l'occurrence. Et depuis que j'ai eu idée en fait de rentrer dans la police, c'était quelque chose qui restait dans un coin de ma tête. Et puis bon, les choix de carrière, les choix de direction ont fait que ça n'a pas été réalisable avant. Mais dès que l'opportunité s'est présentée et dès que c'était réalisable, j'ai fait la démarche en fait pour faire du chien dans la police et j'avais cette possibilité de l'exercer au sein du RAID et donc j'ai foncé et puis ça s'est plutôt pas trop mal passé.
C'est quoi les compétences requises pour basculer dans cette section ?
Alors le profil d'un maître chien idéal. Dans tous les cas, de toute façon, pour travailler au sein du RAID et en général et spécifiquement au groupe cynotechnique, faut être quelqu'un de passionné. Faut que la matière passionne. On peut pas, c'est impossible de que ce soit une idée là qui germe comme ça et devenir sans que la matière soit une vraie motivation, une vraie passion. Sinon, parce qu'avec toutes les contraintes qui peut y avoir, on fait pas une semaine. Il nous faut quelqu'un de passionné, bien entendu. Il nous faut quelqu'un de très disponible aussi, puisque on l'évoquera probablement plus tard au cours de l'interview, mais on est pas mal sollicité et il faut faire preuve d'une grande disponibilité et plus spécifiquement pour intégrer vraiment, enfin pour comprendre comment on dresse un chien et comment on travaille avec un chien, il faut faire preuve d'une grande rigueur, d'avoir des capacités d'analyse, être méthodique, être logique, être très patient aussi. Et la liste est vraiment pas exhaustive parce que c'est vraiment très, ça reste quand même une matière très spécifique et très particulière. Et le nombre de qualités dont il faudrait faire preuve est très important, quoi. Donc voilà. Mais oui, il faut avant tout quelqu'un de passionné et qui d'humble, parce que c'est une matière aussi qui remet à sa place et on est jamais champion du monde. Et voilà.
C'est quoi les différentes missions qu'ont ces chiens?
Alors au groupe cynotechnique là du RAID, on va travailler sur deux axes. Chaque conducteur conduit deux chiens différents. Un premier qui sera dédié à la recherche de matières explosives et un second qui sera un chien d'assaut. Les missions qui nous sont confiées en fait sur le volet recherche de matières explosives, elles sont sur deux axes. Le premier axe, il est que on va être un outil qui sera employé par la section d'intervention je dirais par exemple une interpellation de grand banditisme, de choses comme ça, où la présence de matières explosives pourrait être une menace. Également sur une thématique terreau, où bien on le sait, l'actualité dernière nous le remet en mémoire, où les terreaux se servent évidemment de matières explosives. Donc le chien d'explo pourrait être envoyé sur une ouverture d'itinéraire de manière à pouvoir sécuriser la progression de la colonne, voir si cet itinéraire-là n'est pas piégé avec des matières à explos ou voilà ce genre de choses. De la même manière, on pourrait à l'issue d'une interpellation de terreau participer à une perquisition ou quelque chose comme ça en fait avec nos chiens de recherche explos. Et aussi un gros volet, un autre service auquel on met nos chiens à disposition, c'est le groupe de sécurité du président de la République, puisque systématiquement, lorsqu'il va se déplacer soit en France, soit à l'étranger, eh bien, nous serons là avec des chiens de recherche de matière explo pour eh bien, sécuriser l'événement sur lequel il va se rendre, sécuriser son cortège, sécuriser sa chambre d'hôtel, sécuriser le. On peut imaginer le palais des congrès dans lequel il va faire son meeting, sécuriser son avion présidentiel, sécuriser tous les endroits en fait où le président va se rendre. Et donc l'autre comment dirais-je, l'autre spécialité en fait que nous exerçons avec nos chiens au sein du groupe cynotechnique, c'est évidemment l'assaut, le chien d'assaut, où là clairement il sera donc employé pour il sera un outil mis à disposition pour résoudre une crise. La crise, enfin le cas d'école sur lequel le chien peut être employé, c'est la personne, le forcené retranché, voilà, qu'on va se devoir de maîtriser. Et donc le chien pourrait, dans ce cas de figure, être employé de manière à solutionner en fait cette crise. Et on pourrait également aussi être bien entendu employé sur du terreau, mais bon voilà, après ce sont d'autres process qu'on garde, enfin voilà, que j'évoquerai pas
Faut garder les surprises un peu.
Ouais, mais en quelque sorte, ouais. Voilà.
Exactement. Vous êtes combien dans cette section?
Alors, aujourd'hui, la cellule cynotechnique du RAID est représentée donc à l'unité centrale à Bièvre et également à l'antenne de Marseille. À Bièvre, nous sommes aujourd'hui donc 10 maîtres chiens et à Marseille, 4 maîtres chiens, tous exerçant dans les deux spécialités.
Et dans les autres antennes régionales, il n'y a pas forcément du coup de cyno?
Non, il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de groupe cyno, enfin de maîtres chiens qui sont affectés dans ces antennes-là. On s'efforce si une crise, imaginons à Rennes ou à Bordeaux ou ailleurs, nécessite l'emploi d'un chien, nous on est mis en alerte au préalable et c'est en fonction de la zone géographique, soit les maîtres chiens de l'échelon central, soit les maîtres chiens de l'antenne de Marseille en fait qui se déplaceront sur le lieu.
D'accord. Vous avez comme les maîtres chiens de l'armée de terre un véhicule spécifique avec les cages à l'intérieur, ce genre de choses?
Oui, bien entendu, oui, bien sûr, bien sûr.
Il n'y a pas de spécificité liée à votre activité à vous?
Non, il s'agit simplement d'avoir un véhicule dédié avec des cages suffisamment grandes, avec voilà, de manière à pouvoir emmener le matériel vraiment dédié à la spécialité. Mais enfin, on a des cages, des véhicules cagés conventionnels comme les autres unités. Quoi.
C'est quoi les spécificités par rapport peut-être à l'armée ou même aux forces spéciales? Est-ce qu'il y a quelque chose de...
Les spécificités, les différences majeures en fait avec les forces spéciales, on n'intervient pas du tout sur le même terrain. Les forces spéciales sont sur des théâtres de guerre à l'étranger avec des règles d'engagement qui sont différentes des nôtres. J'entends en matière d'envoi du chien, d'utilisation du chien, et voilà. Une autre différence majeure avec nos camarades militaires, avec lesquels on a bien entendu beaucoup d'échanges, c'est que leurs chiens sont, polyvalents, enfin multispécialités, pardon. Or, puisque leurs chiens font et de la détection d'explos, et bien entendu du mordant. Nous, on a un chien qui est dédié pour chaque spécialité. Voilà, grosso modo, les différences qu'on peut trouver avec nos camarades des forces spéciales, qui, je le répète, avec lesquels on a beaucoup d'échanges et on a beaucoup de plaisir à justement travailler avec eux.
Sur la question des règles d'engagement, concrètement, ça implique quoi? C'est-à-dire que le chien des forces spéciales va être amené à blesser encore plus l'ennemi en face ou pas forcément?
Non, c'est pas une question de blessure, parce qu'un chien du raid mordra avec autant d'envie qu'un chien des forces spéciales. Non, j'entends vraiment en termes de législation et de, voilà, on peut parler de légitime défense, on peut parler ce sont sur ces règles, sur les ce qui peut se faire, je sais pas, dans une... Oui, le cadre légal, quoi, complètement. Voilà, là, nous, on intervient sur le territoire français, et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec une arme, puisque, alors certes, à létalité réduite, ou une arme intermédiaire, qu'est le chien, mais voilà, on est, bien entendu, assujetti, comme n'importe quel policier, à la règle de la légitime défense, et ou de l'état de nécessité ou ce genre de choses. Les militaires sur un territoire en guerre, voilà, obéissent à d'autres règles. Voilà.
Dans un précédent épisode du podcast, on a reçu une policière municipale qui est aussi dans une cellule Sino, qui s'appelle Lalou Croft sur les réseaux sociaux, qui nous disait que son chien Jericho, pour le coup, vit avec elle. Ils sont un peu colocataires et collègues de travail en même temps. Ouais. Est-ce que c'est pareil au raid? Est-ce qu'on peut être coloc avec son, son chien?
Dans l'absolu, rien nous empêche de d'être colocataire avec son chien. Néanmoins, on s'efforce de marquer une vraie différence entre ce qu'est le travail et ce qu'est le repos. C'est-à-dire que nous, en fait, un chien de travail reste au travail. Le chien est capable de mémorisation, et un chien s'habitue un petit peu, s'habitue au confort, et à trop peut-être ramener son chien à la maison et l'habituer en fait à un environnement tranquille, petit tapis, canapé, et puis on travaille pas. Le chien dans sa tête pourrait très clairement un jour se dire non mais moi j'ai plus du tout envie de remonter dans la cage, qui signifie on part bosser, et nous faire un petit refus. Donc nous, même si ça fonctionne très bien chez Dot, nous on s'efforce vraiment de laisser nos chiens au travail. Le chien de travail reste au travail. C'est un chien de chenil, c'est un chien de travail, et croyez-moi, à l'âge de la retraite, nos chiens sont là, on oublie complètement le volet travail pour se dédier complètement à devenir en fait un chien de famille, et nos chiens sont plutôt bien choyés.
Et on a le droit d'adopter un chien comme ça? Vous pouvez adopter votre chien à la fin du service?
Oui, complètement. Une fois le chien retraité ou réformé pour d'autres raisons, il n'est pas rare que les maîtres chiens du service récupèrent leur chien d'assaut, leur chien d'explo. C'est pas rare du tout. Bon, néanmoins, un opérateur au groupe Sino qui aurait fait 10 ans accumulé pas mal de chiens. Donc après, bon, ça serait une ménagerie à la maison. Donc si toutefois le maître ne peut pas ou ne veut pas récupérer son animal, on a pas mal de sollicitations de collègues de la section d'intervention, pas mal d'amis en fait qui se font une joie en fait de récupérer ces chiens auxquels on doit une vraie reconnaissance parce que ce sont des chiens qui auront servi jusqu'à l'âge de 8 ans puisque 8 ans c'est l'âge de la retraite pour nos chiens de travail et donc voilà ils récupèrent nos animaux.
D'accord. Quand vous parliez de chiens potentiellement réformés, c'est quoi, suite à une blessure par exemple?
Ouais. Notamment, on a dû malheureusement réformer un chien suite à une intervention là sur un forcené en région parisienne. C'était en janvier dernier, sauf erreur de ma part. Voilà, ce chien a perdu un œil. Donc il était clair que voilà ce chien il était nécessaire en fait de le mettre à la retraite, bien que il n'a absolument pas perdu son envie de travailler, son envie de mordre qui est complètement sa vie, mais bon voilà, il était convenable de le mettre à la retraite et c'est son maître qui l'a récupéré à la maison et du coup voilà comme je l'expliquais, ce chien a complètement complètement changé d'état d'esprit et c'est un chien qui fait le bonheur et ben de toute une famille avec des enfants tout roule.
Comment c'est possible de faire switcher comme ça un chien qui a passé 8 ans de sa vie à mordre dans des conditions parfois compliquées à devenir
un chien de famille. De base, nos chiens, je vais casser un petit peu les idées reçues, mais de base, nos chiens sont recrutés pour leur équilibre. Donc, ce sont quand même des chiens hyper équilibrés. Maintenant, tout est question, en fait, d'adaptabilité. En fait, un chien qui mord, nous, on le conditionne, en fait, à un environnement dans lequel il va faire son travail, il va mordre. Dès lors qu'on lui retire un petit peu cet environnement et ce conditionnement qui le pousse à mordre, naturellement, il s'adapte, il découvre de nouvelles choses. Ces nouvelles choses, il les trouve agréables et ces nouvelles choses, en fait, il continue dans ce sens, quoi. Donc, ça se fait évidemment par étapes. Si effectivement du jour au lendemain un chien qui n'a connu que des mordants et à dormir dans un box, dans une niche, dans un box, vous le mettez dans un salon avec des enfants, ça risque de coincer bien entendu. Mais voilà, tout se fait par étapes, petit à petit, et le chien comprend très vite et puis.
Est-ce qu'il peut y avoir des cas de syndrome post-traumatique pour un chien?
Oui,
le fait d'avoir vu, je sais pas, le chien qui est rentré au Bataclan, par exemple, s'il y en a eu un, je sais pas.
Non, alors non, le groupe cynotechnique, enfin les chiens d'assaut n'ont pas eu de rôle à jouer au Bataclan. Ce qui pourrait, oui, on pourrait parfaitement, enfin on pourrait. Ça n'est jamais arrivé, hein. Comme j'expliquais pour le chien là qui a perdu un œil, le chien montrait toujours autant d'intérêt à aller mordre et à faire ce pourquoi il est doué. Oui, on peut, mais comme n'importe quel opérateur, comme n'importe quel animal, un cheval ou que sais-je, voilà, en ayant subi quelque chose de compliqué, un traumatisme pourrait faire un refus, bien entendu. Ouais.
Ça, comment vous, y a des vétérinaires ici qui viennent régulièrement pour ausculter le chien,
Alors bien sûr, on a un gros suivi médical pour nos bêtes, hein, quelle que soit la spécialité, dans la mesure où ce sont des chiens auxquels on demande de gros efforts physiques, exactement comme un opérateur qui se doit effectivement d'être en parfaite santé et en parfaite forme physique. Nos chiens sont suivis par des vétos, par des ostéos. Et voilà, et leur santé est vraiment au cœur de notre groupe. Hein. On fait vraiment attention. C'est, j'allais dire notre outil de travail, mais ça l'est bien plus. Hein, vous l'aurez compris. C'est un outil de travail vivant qui ressent des choses auxquelles on fait bien entendu très très attention. Quoi.
Les forces spéciales, je crois que c'est le premier PMA à commencer à équiper leurs chiens de modules annexes avec un casque pour les guider, pour les téléguider en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions? Est-ce que c'est des trucs qui pourraient potentiellement arriver au RAID?
Alors, ce sont des technologies qui, pour certaines, qu'on utilise déjà quotidiennement. C'est ce qui fait, de toute façon, voilà, toute cette recherche technique, technologique. Nous, on s'y intéresse de près, en collaboration avec nos autres copains du GOST, du groupe opérationnel de soutien technique, qui sont vraiment nos techniciens du service et qui eux bricolent tout ce qui est images, son, etc. Donc on travaille beaucoup avec eux pour voilà, c'est ce qui fait vraiment la richesse en fait du groupe Cynotechnique du RAID, parce que ça n'est pas juste conduire des chiens ou dresser des chiens, c'est aussi avoir une réflexion sur l'avenir, sur ok, il existe telle évolution technique, comment on pourrait l'intégrer à l'utilisation de nos chiens et comment on pourrait, cumuler les forces, quoi. Voilà, obtenir et envoyer un chien et obtenir du renseignement. Voilà, c'est toutes ces petites choses, c'est de la recherche et développement. On adapte, est-ce qu'il ne serait pas possible, on vient frapper à la porte de nos copains du groupe technique, est-ce qu'il ne serait pas possible d'adapter cet outil sur les chiens, essayer de faire quelque chose. Et voilà, et puis eux aussi viennent nous présenter des choses, connaissent un petit peu nos problématiques et on travaille de concert avec tout le monde. Et puis bien entendu la section d'inter qui voilà, une fois qu'on a un outil, une fois qu'on a une piste de travail, on va la proposer évidemment au cadre de la section d'inter en disant bah voilà, dans telle configuration on pourrait proposer ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous servir, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous convenir, si on a le vert là-dessus, eh bien on fonce et puis on adapte notre dressage et on se sert de ces innovations techniques.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions éthiques qui peuvent se poser sur l'usage du chien, dans le sens où là, par exemple, ce chien qui s'est fait poignarder, c'est ça,
ouais,
par un forcené.
C'est ça.
Est-ce qu'à un moment donné, vous, parce qu'à force de passer du temps avec le chien, je pense qu'il se crée aussi des relations normales.
Ouais, bien entendu, ouais.
À quel moment on se dit, ouais, là, j'ai pas trop envie de l'envoyer.
Eh bien, alors pas trop envie de l'envoyer, non. C'est soit on l'envoie, soit on l'envoie pas. Le chien est un outil mis à disposition au chef de colonne, au commandant des opérations. Et voilà, l'utilisation du chien, on peut venir. Alors nous, il faut sur l'intervention, bien entendu, qu'on soit force de proposition. Si là, on est dans le cadre rêvé pour utiliser le chien, on va le suggérer. On peut être aussi sollicité par le chef de colonne en disant voilà, là, je voudrais utiliser le chien. Mais la décision d'envoyer ou non l'animal nous appartient. Si les conditions optimales pour envoyer le chien sont réunis, eh bien c'est parti. Si on considère qu'elles n'y sont pas parce que ça serait, je dirais, envoyer le chien au sacrifice et que ça n'ait aucune plus-value pour la résolution de la crise ou pour l'avancée de la situation, bien entendu, voilà, on n'envoie pas le...
Et comment vous pouvez le savoir dans le feu de l'action, dans une action qui peut être parfois complexe, vous n'avez pas forcément toutes les informations?
On s'efforce sur une crise, bien entendu. Alors, ce sont des crises figées la plupart du temps. Je vous l'évoquais tout à l'heure, le cas d'école, c'est vraiment le forcené retranché où le mec est seul. Il n'y a que lui. Le temps joue pour nous, donc la situation est figée. Donc on a le temps, on a toutes ses capacités, on a toutes les possibilités d'analyse qui nous permettent de nous dire, ok, donc là, voilà, on a telle configuration des lieux, on est au cinquième étage, il y a une fenêtre qui est ouverte. Bon voilà, plein de petites choses comme ça. Donc on fait en sorte de prendre un maximum d'informations et c'est une stratégie en fait qui est mise en place. Cette stratégie doit conduire à l'interpellation de l'individu. Et tout est mis en œuvre, s'il y a emploi du chien, tout est mis en œuvre de manière à préserver l'intégrité physique du chien et que l'envoi du chien soit une diversion pour permettre aux opérateurs de venir interpeller l'individu. Donc on est vraiment dans une réflexion. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, dans le feu de l'action. Non, il n'y a pas de réelle urgence, de réel stress ou de réel voilà. Il faut néanmoins faire preuve de sang-froid, parce que bon, quelqu'un qui va tirer au calibre 12 par derrière une porte, c'est des situations qui sont forcément stressantes. Mais ça fait partie des qualités qui sont demandées en fait aux opérateurs, à tous les opérateurs du RAID de toute façon, d'être lucide malgré un stress important. Et de conserver ces capacités d'analyse que j'évoquais tout à l'heure, et de dire on va faire tel protocole pour que l'arrivée du chien soit une surprise pour l'individu, et que du coup cette surprise couvre l'arrivée des opérateurs pour permettre une interpellation propre, puisque on est professionnel et c'est de la chirurgie en fait qu'on fait, hein.
Et dans le cas où vous lâchez le chien, ce qui ne doit pas arriver tous les 4 matins, j'imagine, qu'est-ce qu'il advient de vous ? Vous suivez derrière ou c'est quelqu'un dans la colonne qui suit ?
Alors, je ne veux pas...
Sans trop dévoiler, bien sûr, les modes d'action.
Je ne veux pas dévoiler tous les process, bien entendu, mais l'envoi du chien arrive... l'outil chien est utilisé... Et pas mal utilisé néanmoins. Et oui, effectivement, il y a des opérateurs qui sont dédiés à l'interpellation et bien entendu un maître chien qui est dédié à la gestion de son chien une fois qu'il est au mordant sur l'individu, quoi. Enfin, sur l'objectif.
Oui, vous allez plus vous occuper du chien plutôt que quelqu'un directement.
C'est ça. Mais dans tous les cas, il y a toujours deux maîtres chiens en fait qui sont présents sur une intervention, puisque si toutefois il arrivait un problème à un opérateur maître chien lors de l'interpellation, il y a un deuxième fonctionnaire de manière à maître chien qui est capable de gérer le chien. Et en plus de ça, la présence de deux opérateurs maître chien prend tout son sens, puisque notamment, on peut parler de l'interpellation où le chien a été blessé. On n'est jamais trop de deux, bien entendu, pour gérer des blessures et pour transporter un chien et pour faire les gestes de premier secours. Il est mieux d'être deux.
Combien de temps il faut pour éduquer un chien, pour qu'il soit prêt vraiment à être utilisé?
Alors, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu du sujet, parce que comme n'importe quel être vivant, les capacités de mémorisation varient, fluctuent. Mais je dirais, si je devais donner une moyenne avec un chien dont le caractère est en voie d'être affirmé, donc à l'âge de 1 an, on peut commencer un dressage, et pour obtenir un chien d'assaut du RAID, il va falloir compter une bonne année en fait de formation. Grosso modo, c'est ça. On est sur une année de formation, une année de dressage pour avoir un chien qui sera opérationnel en colonne. Et puis j'ai envie de dire, de toute façon, le dressage, c'est toute la carrière du chien, puisque avec les innovations techniques, technologiques ou quoi, donc on va rajouter des compétences au chien, on va lui apprendre des nouvelles choses si on nous demande, dans tel cas de figure, de dresser nos chiens en fonction. Donc c'est toute l'année en fait, c'est toute la carrière du chien qui a un dressage qui est fait, puisque je le répète, mais le chien est capable de mémorisation, mais il est aussi capable d'oublier deux trois choses, et quelque chose qui pourrait être acquis le vendredi soir pourrait complètement être oublié le lundi matin. Donc c'est vraiment un boulot au quotidien et toute la carrière du chien, quoi. Donc j'insiste là-dessus, il faut vraiment être passionné et aimer la matière, quoi, pour
et être patient.
Ouais, complètement. Complètement.
Les chiens, vous les trouvez où?
Eh ben, on les trouve. On a plusieurs voies de recrutement. De toute façon, un chien qu'on recrutera au service et de manière générale dans la police nationale, c'est pas un chien qu'on pourra avoir chiot. Puisque un chien, pour qu'il soit estampillé police nationale, doit être exempt de dysplasie, qui est une maladie des hanches, et cette maladie n'est détectable qu'avec une radiographie, et lorsque le squelette est plus ou moins, enfin, est plutôt formé, donc qui sera détectable qu'à l'âge de 10 ou 11 mois, sauf erreur de ma part, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne recrute pas des chiens chiots. Ces chiens, on peut les trouver partout. C'est-à-dire qu'on a des contacts, bien entendu, avec des éleveurs qui connaissent plus ou moins notre cahier des charges et qui connaissent un petit peu le tempérament et le profil des chiens qui pourraient nous servir. Mais on a parfois on part parfois dans les SPA voir un petit peu ce qu'on peut trouver, parce que bien souvent on a des particuliers qui prennent des chiens, et spécifiquement des malinois, puisqu'à 99% le chenil est composé de malinois, qui ont vu 2-3 vidéos sur internet et qui trouvent que c'est vachement bien un malinois et que ça obéit bien. Maintenant, ça obéit pas en un claquement de doigts, et on a parfois des gens qui, trop souvent d'ailleurs, des particuliers qui se laissent déborder en fait par leur animal, et la solution est tout de suite trouvée, ils les mettent en refuge parce que ils ont mordu, parce qu'ils ont débordé, parce qu'ils les considèrent comme ingérables. Bon, ça c'est encore un autre débat, mais voilà. Donc on arpente un petit peu les SPA parce qu'il y a de très bons chiens avec de très très bonnes origines, ou pas, mais qui font des chiens qui correspondent parfaitement en fait au profil. Et puis on a parfois et souvent notre centre national de formation des unités cynophiles qui se trouve à Cannes-Écluse, qui ont un chien qui aussi ont recruté par divers horizons, qui ont un chien qui correspond au cahier des charges très très spécifique pour faire du chien d'assaut, qui nous contactent et qui nous disent voilà, là on aurait un sujet qui serait pas trop mal pour vous. Et voilà, donc on a divers horizons en fait pour recruter du chien. Il arrive aussi que nous soyons la dernière chance en fait pour un animal qui jusqu'alors était ingérable et qui était destiné à la piqûre, et nous on en fait des chiens qui tournent très très bien, qu'on arrive à on leur donne un équilibre et on met à profit leur excessivité, soit dans le mordant, soit dans le jeu, puisque bon, là on évoque beaucoup le chien d'assaut, mais le chien d'explo, c'est un profil un petit peu différent. C'est une excessivité dans le jeu. Ce sont des chiens ultra dynamiques, ultra joueurs, et c'est par ce levier là en fait, par le levier du jeu, qu'on amène nos chiens à rechercher avec une frénésie telle que voilà, c'est quelque chose qui l'a. Voilà, ils recherchent de l'explo, c'est leur vie, et voilà, ce sont ces capacités de jeu qu'on met à profit pour trouver de l'explo.
D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Si vous deviez donner un conseil, à part le fait d'être passionné du coup, à quelqu'un qui aimerait se lancer là-dedans, dans cette spécialité, ce serait quoi ?
Ça serait sans problème de venir frapper à notre porte pour qu'on puisse déjà passer une journée ensemble, parce qu'on reçoit tous les policiers qui sont intéressés par la spécialité, de venir passer une journée. Comme ça on se rencontre, on est un petit groupe hein, ici on est 10, donc au-delà des capacités physiques etc qui sont communes à finalement tous les opérateurs du RAID, nous on vit vraiment en microcosme, on part à l'autre bout de la planète en binôme pour donner des missions de formation, pour faire des échanges. Donc on cherche vraiment un état d'esprit, on cherche vraiment des gens qui sont donc bon, comme évoqué, passionnés, mais surtout qui sont dans le même état d'esprit en fait que le reste du groupe. On forme une petite famille, et donc voilà, voir un petit peu à qui on a affaire, mais voilà, il n'y a pas vraiment de conseils particuliers. Nous on est ouverts. Les policiers qui sont intéressés pour intégrer le groupe Cyno sont les bienvenus, et puis on passe une petite journée ensemble, on montre un petit peu ce qu'on fait, On explique les très bons côtés qu'il y a à être ici. On explique aussi les côtés un petit peu plus compliqués, puisque bon, je faisais allusion à la disponibilité. Voilà, ce sont des choses à étudier, ce sont des choses qu'il faut évoquer pour être sûr de faire le bon choix. Mais bon, moi, en ce qui me concerne, mon choix de venir ici était très bon.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange.
Avec plaisir. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à tout de suite dans la suite de cette mini-série consacrée au RAID.